Et nous en sommes à la face B de la deuxième cassette, toujours dans le chapitre 14. Je disais que l'approche de l'apôtre face à une situation d'Église diffère de celui de l'approche du prophète. L'apôtre donne son point de vue en partant de la doctrine traditionnelle de l'Église. Et le prophète lui réagit sous la mouvance du même esprit, en partant de ce qui est en cours et va à la rencontre de l'avenir. Donc, il ne part pas de ce qui est déjà défini, mais de ce qui se profile dans l'avenir selon les desseins de Dieu. Le prophète n'a aucune autorité pour définir ou préciser la position officielle de l'Église. Cela appartient exclusivement aux successeurs des apôtres et éminemment au vicaire du Christ, le Pierre d'aujourd'hui. Le prophète se soumet à 100% à l'autorité légitimement en autorité. Son rôle cependant, même je dirais son devoir de prophète, l'oblige, si l'Esprit le lui demande, à faire connaître à l'apôtre et au peuple son point de vue, ses réflexions prophétiques en toute vérité, charité, liberté, car elles sont complémentaires et importantes. Et c'est dans ce sens qu'on parle du couple apôtre-prophète. Sa contribution n'est pas primordiale, donc ne prime pas sur celle de l'apôtre, mais elle est indispensable si l'autorité veut jouir d'une vue globale dans une Église peuple de Dieu en marche. Ainsi, en tant que prophète, j'ai pu découvrir que la décision de Jean-Paul II, en plus d'être bien fondée sur le plan doctrinal, s'est trouvée à être d'une sagesse et d'une prudence extraordinaires, sans doute fortement inspirée par le Seigneur, pour peu qu'on considère les trois tableaux suivants. Primo, notre Église, on le sait, est en déclin rapide. Certains diront même en déconfiture. Elle doit être renouvelée de fond en comble. Et avoir admis actuellement des femmes à des postes importants en cette Église, à la veille de l'enterrement de son style 1 actuel, de l'effondrement de ce style, aurait été le pire coup bas à porter au respect de la femme et de ses réelles et grandes valeurs. On lui aurait imputé à coup sûr nos graves malheurs tout proches. Secondo, l'Église qui a régné aux mains des hommes uniquement s'est entachée au cours des siècles de machisme, de suprématie et orgueil mâle, de complexes de suffisance typiquement mâles. Le tout, hélas, amplifié par un manque d'éducation et de maturité affective. On a plus souvent enseigné aux séminaristes, aux novices, aux pasteurs à se méfier de la femme qu'à l'apprécier. Et d'ailleurs, parler actuellement de partenariat est, dans bien des cas, un mirage, une illusion, une utopie. Il en sera ainsi tant et aussi longtemps que les chefs spirituels, les pasteurs, les directeurs de conscience, etc., n'auront pas un cœur et un esprit renouvelés à cet égard. Si l'ordination avait été et était autorisée, ce serait la catastrophe. Tertio, beaucoup de celles qui revendiquent ce privilège de l'ordination des femmes sont encore beaucoup trop animées par le désir d'affirmer un esprit de pouvoir en l'Église que par le désir de répondre vraiment à un appel bien discerné de Dieu au sacerdoce et à vouloir se consacrer au Seigneur en service de son choix à lui, en son Église restituée véritablement entre ses mains. Pour ces trois motifs évoqués, l'ordination des femmes, et c'est la vue prophétique, ne pouvait pas et ne devait pas être autorisée en Église d'aujourd'hui. En ce sens, la décision de Jean-Paul II était hautement d'avant-garde. pour recourir à une expression bien à la mode en certains cercles. Après le retour de Jésus, sa deuxième venue, au cœur d'un monde et d'une Église renouvelés de fond en comble, avec des cœurs et des esprits purifiés et nouveaux, dans un royaume inondé par l'amour et l'esprit de service au service de l'esprit, donc où le décès de l'esprit de pouvoir, du machisme, de l'orgueil blessé, de l'égoïsme, etc., auront bel et bien été constatés et certifiés, donc dans un monde et une Église aux us et coutumes toutes modifiées et sanctifiées, nous serons en présence de toutes nouvelles coordonnées à tous les points de vue. À ce moment-là, en ce monde et cette Église venue du ciel, après le retour de Jésus, je ne serai nullement surpris qu'on puisse penser à l'ordination des femmes dans le visible ou l'invisible. La doctrine de l'Église saura, sous le leadership de son bon pasteur, s'adapter aux toutes nouvelles circonstances au lendemain de cette toute nouvelle venue, si, bien entendu, telle était là la volonté de son et notre bon Père du ciel. Est-ce un signe avant-coureur des temps à venir alors de constater qu'actuellement, la participation est prépondérante de la femme en tous ces derniers temps, au cœur même de la très très grande mission du Père. Le pourcentage des appelés, des initiés, des réponses, des messagères, des missionnaires est interpellant. Et nous avons connu notre propre bien vécu aux fondations. Le Père a désigné comme toute première partenaire à l'animation et à la direction de ces deux fondations, Isabelle Gauvin et à son décès prématuré aux mains du cancer, Hortense Lannoy. Et il s'agissait là, bel et bien, selon son désir, d'accueillir sans réserve et tout à fait respecté d'un partenariat à part entière et complémentaire, aller et retour. Et passons au chapitre 15. Le début de la sixième partie, intitulé « Facteurs de croissance », chapitre 15. Apprendre à gérer et digérer sa surabondance, avec un grand S, sa surabondance. Nous connaissons un étrange paradoxe. Dans notre monde matériel actuel, nous connaissons la surabondance. Nous le savons, nous sommes inondés, submergés même par les nouvelles, la publicité, les biens, les aliments, les services, les opinions, les commodités, les équipements. Et alors qu'on a la capacité et le devoir de les maîtriser, de les discerner, de les mettre sous notre gouverne, beaucoup, au contraire, capitulent et se laisse littéralement déborder et maîtriser par la surabondance matérielle. Par ailleurs, à l'inverse, dans notre, le monde spirituel, Dieu amour ne cesse de laisser déborder ses bienfaits en nous, à travers nous et autour de nous, normalement, puisque tout cela vient de son amour infini, éminemment bienveillant et bienfaisant, on ne devrait avoir aucune crainte et nous laisser littéralement envahir, couvrir, immerger, bref, maîtriser par cette surabondance à 100% parce qu'elle est divine et nous devrions le faire sans la moindre hésitation, sans la moindre peur. Or, ici encore, on fait habituellement tout le contraire de ce qu'on devrait faire. Au lieu de laisser sa surabondance à lui, nous envahir à fond, nous posséder de plus en plus, nous maîtriser tout à fait, nous nous débattons, nous offrons des résistances, nous filtrons, nous dosons, nous sélectionnons, nous contrôlons et tentons de limiter et de maîtriser Dieu et ses largesses. Bref, on ne se défend pas contre le matériel qui finit par nous dominer, on se protège contre le spirituel qui vient de Dieu au lieu de ce ou le laisser nous combler. Fréquemment, j'entends des gens dire ceci, « Ah, j'aime bien vos enseignements, vos cassettes, mais j'ai de la peine à tout retenir, à tout saisir. C'est tellement dense. À chaque écoute, chaque lecture, je découvre du nouveau. » Et on entend les mêmes commentaires sur les messages de Maman Marie, les messages du Père. Beaucoup se sentent débordés, submergés, dépassés par la surabondance des enseignements du Seigneur. Certains en deviennent parfois inquiets, complexés et découragés. On a été tellement d'ailleurs marqués depuis notre jeunesse par les examens à passer, des tests à subir, des diplômes à obtenir, la comparaisonite, l'évaluationnite, etc., d'où on a un désir pressant de toujours tout bien saisir, pouvoir répondre sur tout, y arriver vite, de nous faire des petits résumés, des synthèses, des tableaux, où tout est contenu. C'est tout à fait normal, mes chers frères et chères sœurs, de ne pas tout saisir, tout retenir, pouvoir tout redire ou expliquer. Je vous avoue que moi-même, qui a à proclamer ces vins nouveaux, je dois les laisser fermenter, mûrir, mijoter, s'approfondir en moi très longuement, très lentement avant de les proclamer. Et quand je les proclame à sa demande, je continue encore à découvrir, à apprendre, à mieux comprendre. Je leur découvre une nouvelle profondeur, ampleur, saveur, car sa parole à lui, elle est vivante et toujours en route. Donc, il faut comprendre une fois pour toutes sa pédagogie. Le Père, Jésus, l'Esprit, Maman Marie nous enseignent à dose massive. Et aux fondations, on procède ainsi depuis toujours sur ordonnance divine. Il, elle et nous, nous confions toujours au Saint-Esprit le goutte à goutte de la perfusion lente et continue qui s'ensuit. Tout comme on le fait d'ailleurs en médecine, dans le cas d'un soluté, d'un sérum ou d'une transfusion sanguine. Alors, c'est très important de comprendre que c'est normal de ne pas pouvoir tout absorber d'un coup, mais il faut s'en remettre à l'action de l'Esprit-Saint qui assure ce goutte à goutte. Et il ne faut pas surtout aller contrôler nous-mêmes ce goutte à goutte. À la dose massive, il ne faut pas accorder une écoute trop tendue, analytique, synthétique, sélective, mais se contenter d'un accueil global du message et du messager. À la fin, en retenir une vision globale, en accepter une approche globale, laissant à l'Esprit-Saint le soin de nous ajuster cela et de nous faire ressouvenir de ce qui est important au fur et à mesure. Passons au chapitre 16. Et nous sommes toujours dans la sixième partie. L'indispensable seul à seul avec lui, à esprit et à main libre. Dans la mission du Père, pour bien capter tout, il faut beaucoup d'adoration et d'écoute personnelle du Seigneur. En second lieu, il faut expérimenter soi-même la mission du Père. Ce n'est pas une notion, une théorie, ça se découvre expérimentalement. En troisième lieu, il faut un ministère actif de direction spirituelle et d'écoute auprès des âmes. C'est là qu'on en découvre, je dirais, l'ampleur. Et quatrièmement, une foi très vive, car tout se vit et se fait dans l'invisible. Or, assez paradoxalement, ces quatre exigences manquent à beaucoup de pasteurs d'âme. Ils ont peu de temps d'adorer, d'écouter le Seigneur ou d'écouter les âmes, ont parfois une foi limitée, de plus en plus limitée au visible, au vérifiable, à l'évident. Seuls les tout-petits devant le Père, à la grandeur de la terre, parce qu'ils sont plus disponibles et dociles, captent nettement cette nouvelle mission et en vivent. Il est donc important pour chacun d'entre nous d'arriver à établir et à multiplier nos rencontres seul à seul avec Jésus, avec le Père et l'Esprit. Il est excellent de se retrouver en sa présence réelle, celle de Jésus, pour prier, lire l'Écriture ou des messages, réciter le bréviaire ou le chapelet, exercer ses dévotions. Dieu s'en réjouit. Il est excellent de converser avec le Seigneur en toute spontanéité et simplicité, tout au long de ses allées et venues quotidiennes, en route, au travail, au centre d'achat, dans des rencontres. Dieu apprécie tout cela, mais il revient nous supplier de lui accorder chaque jour un ou deux ou plusieurs bons seul à seul à esprit et main libre. C'était d'ailleurs, on s'en souvient, sa toute première exigence au tout début de ses fondations. Il nous avait dit que c'était dans les seul à seul, au Saint-Sacrement, en présence de Jésus au Saint-Sacrement, qu'on pourrait devenir et demeurer outre neuve, ce qui était requis pour capter ces grands crus nouveaux. Seul à seul pour pouvoir entendre et comprendre et apprendre aisément le style de nouveau, et finalement être saisi par sa grâce privilégiée. Dans ce seul à seul, il faut s'en rendre compte, ce n'est pas facile du jour au lendemain, et habituellement on passe par quatre étapes successives. La première, on a tendance à s'activer soi-même, on parle, on récite, on occupe le temps, et le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut. Il ne nous demande pas d'aller en sa présence pour lui tenir compagnie et le distraire. Il veut qu'on en vienne au silence actif, c'est-à-dire que nous faisons silence et lui s'active. Dans une deuxième étape, on finit par cesser de s'agiter. Les distractions alors commencent à nous envahir. On s'inquiète et on s'obsède face à ces distractions. Le Seigneur nous dit qu'il veut et va peu à peu capter notre attention. Ce n'est pas à nous de forcer la note pour être concentrés. À ce moment-là, c'est la tête qui travaille et c'est le cœur qui ne fonctionne pas. Alors, il faut lui placer la commande et lui dire, « Seigneur, tu vois mes distractions, viens les départager des inspirations, mais viens capter mon attention et ma présence pour que ce soit cœur à cœur. » Dans la troisième étape, on en arrive au seul à seul, à main libre et esprit libre. Mais très tôt, on s'inquiète de ne rien entendre à l'intérieur et on a l'impression que rien ne se passe. Et la réponse du Seigneur, c'est que c'est faux. C'est impossible qu'en une telle présence, rien ne se passe. Ce qui faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, il ne veut pas qu'on s'en rende compte de ce qui se passe, car on interviendrait au fur et à mesure pour analyser, filtrer, compléter, ajouter, corriger. Il faut donc attendre les occasions qui suivront le temps consacré au seul à seul pour voir jaillir de nous des réponses, des comportements, des lumières et des forces qui sûrement ont été déposées en nous, à notre insu, pendant le temps du seul à seul. Et la quatrième étape, c'est celle où on découvre de plus en plus ce qu'il opère en nous, séance tenante. Et on voit d'abord, dans le rétroviseur, ce qui s'est passé dans notre vie. Ensuite, quand il sent vraiment qu'on le laisse agir, il nous montre un peu ce qui va se passer ou se passe actuellement autour de nous, pour enfin nous faire des confidences quant à l'avenir. Mais il s'assure, avant tout, qu'on ne s'approprie pas ses desseins, ses projets et ses initiatives. Passons au chapitre 17. Les renouveaux et le renouveau ou nouveau renouveau mystique continu. Vous le savez comme moi, on a connu en Église, au cours de cette deuxième partie du XXe siècle, toute une série de renouveaux spéciaux. Il y a eu le renouveau liturgique, le renouveau écuménique, charismatique, canonique, biblique, pour n'en nommer que les plus connus et retentissants. Tous ces renouveaux ont explosé comme des bombes de grâce en Église et ont été en majorité bien accueillis et en minorité bien discutés ou même critiqués, ont pris la vedette et ont fait fureur en bien des milieux. Les renouveaux du style 1 actuel se limitent aux divers domaines concernés, comme ceux que je viens de mentionner, liturgie, catéchèse, droit canonique, Bible, etc. Parce qu'il ne présuppose pas et n'entraîne pas nécessairement un changement profond de cœur et d'esprit et s'impose un effort précis dans un délai limité. Et c'est pour ça que ces renouveaux finissent par des résultats qui pigent, qui tigent, et qui fige, qui pige au meilleur des connaissances de l'heure et de leur connaissance au pluriel, qui tige, c'est-à-dire qui pousse trop vite et ne porte que peu de fleurs et de fruits spirituels succulents et durables, et qui fige, les résultats ne progressent plus, tout stagne et redevient routine. Ce fut le cas de Vatican II à bien des égards, et c'est le sort de la plupart des chapitres généraux de nos communautés religieuses, qui finissent par être des feux de paille ou des feux d'artifice avec très peu de lendemain. C'est le même sort de nos synodes diocésains. Alors que, en style de nouveau, le nouveau renouveau mystique continue, c'est-à-dire le constant renouvellement et ressourcement des cœurs et des esprits, permet et permettra de surveiller l'évolution progressive et l'adaptation dans tous les domaines de la vie spirituelle, ecclésiale et religieuse, non pas par des sauts saccadés, irréguliers, discontinus, mais bien plutôt au fur et à mesure de la marche en Église. Ce sont les cœurs et les esprits en état de nouveau renouveau mystique continu qui vont garder l'œil ouvert sur la mise en culture constante de tous les domaines comme la liturgie, la théologie, l'exégèse, l'évangélisation, etc. Ce renouveau mystique des âmes, et mystique c'est-à-dire ce rapprochement entre Dieu, cette union entre l'âme et Dieu, comprenez-moi bien, ne fait pas que commencer dans le monde et en Église. On le sait par la multitude d'exemples dans la Bible et l'histoire de l'Église. Pensons seulement à ces grands champions, ces Jean de la Croix, ces Thérèse d'Avila, ces fondateurs d'œuvres et de communautés. Ce que je veux proclamer, c'est qu'en Église commence maintenant un essor sans précédent du renouveau mystique. Que ce siècle va se terminer et l'autre commencer, pendant que nous verrons éclore sous nos yeux, dans les âmes, des fruits et des fleurs spirituelles, malgré les apparences naturelles et matérielles souvent contraires, comme jamais vous et moi n'en aurons vu de notre vivant. La vie ascétique et mystique va revivre intensément, sortir de terre avec force, envahir et transformer le peuple. Les renouveaux, comme ceux qu'on a eus depuis 50 ans, canoniques, bibliques, liturgiques, écuméniques, charismatiques, auront toujours à être en quelque sorte repensés, réajustés, redéfinis, et s'ils ont été trop mis en conserve, être remis en culture. Mais le renouveau mystique, lui, s'ajuste au fur et à mesure, s'ajuste aux besoins, aux étapes, à la mission de l'âme, et ajuste par voie de conséquence, si ce renouveau est vraiment partagé entre frères et sœurs, donc de vrais communautaires chrétiens, ce renouveau mystique ajuste au fur et à mesure la communauté chrétienne, l'Église, tout le peuple en marche pour l'avènement du royaume de Dieu dans le monde. Le renouveau mystique des âmes individuelles engendre le constant nouveau renouveau spirituel de toute la communauté chrétienne et envahit la pensée, la vie et le fonctionnement de toute l'Église, en diocèse, en paroisse, en communauté religieuse, dans les œuvres, etc. Le vrai de vrai nouveau renouveau en Église est donc un aggiornamento perpétuel, selon l'expression de Jean 23, un renouvellement continu, selon l'expression de Paul 6, une naissance et renaissance continue, ininterrompue, au rythme de la sanctification qui s'opère en chacun et mis à la disposition du patrimoine collectif par un vrai de vrai partage spirituel communautaire. En ce sens, le nouveau renouveau continu ne fige jamais, ne cesse jamais. En somme, la mission du Père est primo une œuvre essentiellement consacrée à notre renouveau individuel, au renouvellement de notre être, cœur et esprit, permettant enfin à chacun chacune, dans sa petitesse d'âme, d'accueillir pleinement son œuvre à lui, son œuvre d'amour ou son amour à l'œuvre. Et, secundo, et cela étant acquis, par voie normale de conséquence, devrait nous donner un monde et une Église renouvelés de fond en comble, en nouveau renouveau continu. Et passons au chapitre 18. Deux puissants ministères invisibles. En tout petit, missionnaire sans frontières, dans la foi la plus pure en sa mission, avec ferveur, j'ai demandé à notre bon papa d'amour d'instituer réellement dans l'invisible trois centres de formation et d'enseignement voués à préparer déjà la relève des leaders spirituels de l'Église de demain, déjà en cours de se renouveler à fond, de fond en comble. D'abord, d'instituer un grand séminaire, universel, vraiment modèle, de style 2 nouveau, 5 étoiles. Ensuite, un centre de formation à la vie religieuse, active et contemplative, à la vie mystique et à la vie consacrée, toutes trois également de style 2 nouveau. Et enfin, un collège d'initiation, d'entraînement, de recyclage pour tous ceux et celles qui, dans l'Église, entendent continuer à servir en Église et voudraient faire l'heureuse transition du style 1 actuel à l'agonie, au style 2 nouveau qui brûle déjà les cœurs. Donc, ouvert ce troisième institut aux évêques, prêtres, diacres, théologiens, agents de pastoral, catéchètes, exégètes, etc. Vous savez, comme moi, il y a présentement sur la planète plus de vocations en appel à la vie sacerdotale, religieuse, consacrée, apostolique, monastique, à l'évangélisation que jamais auparavant. Mais ces personnes cherchent en vain les lieux et milieux de vie qui répondent vraiment à leurs aspirations. Précisés au fond de leur cœur par le Seigneur, en quelque sorte codés pour les empêcher d'y aller à rabais. Et ces vocations errantes, ne trouvant pas la réponse visible à leur appel personnel, risquent fort et rapidement de devenir perplexes, de se demander s'ils rêvent en couleur ou ont été induits en erreur, erreur d'appel ou erreur de personne. J'ai demandé également que les formateurs et formatrices, les théologiens et théologiennes, les accompagnateurs et accompagnatrices spirituelles dans ces instituts universels invisibles soient triés sur le volet, que leur science de Dieu et leur vie en Dieu se complètent et s'entraident. Que le concept de base en éducation soit la culture et non la production, le modelage, le moulage, le façonnage en série. Qu'ils aillent repérer l'appel, la vocation au fond des êtres et l'aider à surgir cet appel et à s'épanouir. Aller découvrir au fond de chacun et chacune le type de prêtre, de religieux, de religieuse et de consacré que Dieu veut préparer pour son Église à venir, toute renouvelée. Donc, des formateurs et formatrices qui veulent non pas se reproduire à leur image et ressemblance. Que toute personne, et j'en ai la conviction, qui s'inscrira ou s'inscrit librement et dans la foi pure à ces œuvres de l'amour de Dieu et de la miséricorde, dans l'invisible, bénéficie déjà immédiatement de grâces privilégiées, de lumière, de force, de discernement, de fidélité, de persévérance, et sente clairement l'action de cette bi-énergie nouvelle opérante en lui et en elle, et que ces personnes soient immunisées contre toutes les erreurs, séductions, dilutions qu'on leur présente. Dans mon cœur d'enfant, j'ai également demandé au Père que ceux et celles que je décris comme des prisonniers des ténèbres, des esclaves du mal, devenus actuellement tout à fait incapables de bouger moralement, d'exercer le moindrement leur liberté spirituelle d'enfant de Dieu, parce qu'ils sont complètement enlisés dans le mal et aveuglés par les ténèbres, parce qu'ils y sont menottés, enchaînés, bâillonnés, tout à fait incapables de s'en sortir, qu'ils sont constamment surveillés, menacés pour les empêcher de fuir et d'y échapper, à moins d'un miracle, il semble que leur sort est jeté. Et alors j'ai demandé au Seigneur, inspiré de ce qu'on lit dans les Actes des apôtres, la libération de prison de l'apôtre Pierre, Actes 12, 6, 11, et celle de Paul et Silas, Actes 16 et 25, j'ai demandé au Père dans un ministère invisible que tous ses frères aient une chance. Et nous prions sur eux tous les jours. Nous exerçons le ministère du baptême de gloire, de création de l'amour, de confirmation dans la gloire, et Nous demandons, Père, par sa puissance et son infinie miséricorde et en toute gratuité, de faire fondre leurs menottes, tomber leurs chaînes, ouvrir les portes et que les anges les projettent à l'extérieur, dans la lumière divine, où ils peuvent recouvrer enfin le libre exercice de leur liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Et là, des prêtres sont invités à venir leur offrir le sacrement de la réconciliation et à les oindre du Saint-Crème Trinitaire pour qu'ils puissent continuer à exercer ces ministères. Et nous passons au tout dernier chapitre, chapitre 19, suggestion de quelques grandes grâces à demander, pour soi-même en particulier, toujours dans le but cependant de mieux servir ses frères et sœurs dans l'invisible. Et vous en avez une courte liste, et il me suffit de vous dire que libre à chacun d'entre vous de demander ces grâces. Depuis 1985, Hortense Lannoy et moi avons demandé au Père de fonder ce qu'on a appelé une équipe universelle des soins transitionnels. Et régulièrement, nous avons demandé, dans la foi, que personne au monde ne meure seul, que tous soient accompagnés 10 minutes avant leur mort et 10 minutes après par cette équipe universelle des soins transitionnels. Et je peux vous dire, 13 ans après, que ce ministère a été exercé régulièrement et que cette équipe n'a cessé d'augmenter. Et si vous le désirez, vous pouvez demander d'y être intégré et le Seigneur s'en réjouira. La même chose avec l'équipe Dieu Secours. À travers le monde, on sait que beaucoup de nos frères subissent des accidents, ont des maladies, ont des épreuves, perdent leur fortune et tout cela. Et nous croyons que Dieu, par sa toute-puissance, par des miracles de sa grâce, peut leur envoyer ce qu'on appelle des anges qui viennent leur porter des biens, des secours, partager des conseils, les réconforter et, comme par enchantement, disparaissent après coup. Eh bien, le bureau de recrutement, la main-d'œuvre est toujours ouvert pour l'équipe Dieu Secours. La grâce des corps de gloire anticipée, elle est là en disponibilité pour ceux qui croient et vivent intensément la mission du Père. Et la grâce de la présence eucharistique continue, elle a été offerte par le Père aux premiers qui ont été initiés à la mission du Père et cette grâce est en disponibilité, sans doute, pour tous ceux qui, depuis lors, ont été enseignés ou vivent et croient en cette mission. Il s'agit de demander la faveur que, contrairement à ce que l'on enseigne, quand on a communié, on dit que la présence eucharistique demeure en nous le temps que le corps et le sang soit absorbé ou digéré, et cela peut représenter un certain délai, mais dans cette grâce privilégiée, le Père accorde la continuité de la présence eucharistique d'une communion à l'autre. Et voilà, nous terminons ce chapitre, et nous allons passer à la conclusion. J'ai pensé que ce qui, à la fois, serait le plus indiqué et vous serait le plus agréable, ce serait de laisser la parole à notre bon papa d'amour et de parcourir ensemble quelques courts extraits de ses messages. Alors, recueillons-nous pour écouter notre Père du Ciel converser au fil des jours depuis 1979 avec sa fidèle messagère. Et je cite, « Et le Père est le véritable animateur de la mission à laquelle il a donné son nom, la mission du Père et la mission des derniers temps pour signifier qu'il n'y en aura pas d'autre de ce genre par le Dieu Trinité, et que la fin des siècles est toujours marquée de l'événement de quelque chose de plus que ordinaire. Nous serons en les derniers jours de ce siècle en forme d'église bien constituée pour une marche en avant dans le pas du premier jour du nouveau siècle, qui apparaîtra en le temps jour de grâce de la bénédiction éternelle de Dieu le Père en le Fils et le Saint-Esprit, de feu-lumière, pour le siècle fini et celui qui commence. Sera pour vous une année de grâce, de bénédiction, pour la vie de gloire du ciel, d'éternité, en les plus beaux jours donnés par votre Père. J'ai fondé mon Église de la mission invisible des choses, divine, surnaturelle, spirituelle, mystique et évangélique, de l'amour pour toutes les âmes du monde entier, de la terre, et ce qui se reflète sur toutes les âmes de la terre, c'est le don, le plan de l'amour, c'est ma divine essence divine en grâce d'amour, en don d'amour, en plénitude de l'amour, des dons de l'amour, des feux de l'amour, de ma vie de l'amour, pour une grande et fulgurante joie de mon cœur, en les ardeurs de feu de l'amour gloire, d'une gloire infinie, d'une vie de lumière, d'une vie de joie, de mes plénitudes de Dieu le Père, en la Trinité amour, feu de gloire, des amours, des cœurs, de tous mes enfants de la terre qui me sont chers en cette mission d'amour. » Fin de la citation. Et un autre extrait. « Je vous appelle à une vie pleine et véridique du droit en les lois de Dieu pour donner la lumière et les feux de l'amour en l'enseignement et pour que, une fois une plus profonde ouverture à la grande mission du Père, par la lumière de l'Esprit Saint de vérité, en l'Église de visible de Jésus-Christ, où j'ai greffé mon Église invisible sur les bases de l'Église visible de Jésus le Christ, le Fils unique du Père, le Fils de Dieu le Père, en les feux de l'Esprit Saint de la Trinité. » Fin de cette citation. Et j'aurai juste le temps de commencer une troisième citation en le disant. « J'ai dit et j'ai accompli ma mission par vos mains, que j'ai béni pour accomplir mes œuvres d'amour en les âmes de la terre. Tu es uni par ma volonté à toutes les âmes de la terre pour leur donner la connaissance de ma mission par la prière, le jeûne, le silence, l'union à Dieu dans les échanges de la mission du Père, qui est le don de l'amour en les âmes, l'amour en acte et en la vie d'amour, en le service de toutes les âmes du monde entier. » Et j'arrête ici car le temps est écoulé. Que la bénédiction trinitaire d'amour descende sur vous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.